Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Ici Gabriel Beck pour cette émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de CIBL. Tiotake, en territoire Kanyagehaga, territoire non cédé, aussi appelé Montréal. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale autour du jeu Make Sense, qu'on pourrait traduire par faire sens. C'est quoi quand ça fait sens? C'est quand dans un rapport, ça s'aligne harmonieusement, quand ça fusionne et qu'il n'y a plus de différence entre le dehors et le dedans. Il y a ce sentiment d'appartenance à quelque chose de partagé. C'est quand soudainement, votre relation à l'étranger devient intime. Cherchez cette sensation collectivement en créant du lien avec son intériorité en relation avec le monde. C'est toute l'idée derrière le jeu de cartes Make Sense. Et pour ça, on va jouer avec cet outil millénaire et indispensable pour communiquer, le langage verbal. Nous avons pensé cette émission spéciale pour rencontrer dans l'intime trois artistes montréalais, ensemble jouant à faire sens à la découverte de leur pratique. Nous accueillons aujourd'hui Florencia Sozare. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Goulet-Letarte.
Bonjour.
Et Véronica Mauclair.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de partager cette aventure au cœur du langage et des significations. La sélection musicale qui accompagnera cette émission met en lumière l'artiste sonore français Aymeric de Tapol, qui vit à Bruxelles en Belgique. Sa pratique hybride, expérimentale et contextuelle croise autant la musique minimale et climatique que la musique pop et noise. Son approche explore la matérialité sonore avec toute l'émotion et les significations que l'homme a pu rencontrer avec la nature. Make Sense est un jeu de cartes et composé donc de 250 cartes de trois couleurs différentes, bleu, rose et verte. Pour chaque couleur, un type de mot est inscrit sur la carte. Nous avons des noms, des adjectifs et des compléments. Chaque mot est chargé d'un sens. Lorsque l'on combine ces cartes entre elles, les sens s'entrechoquent pour en faire apparaître de nouveaux. Make Sense est une sorte de langage simplifié créé spécifiquement pour générer des nouveaux sens, mais collectivement. Aujourd'hui, chaque entrevue sera l'équivalent d'un tour de jeu. Et à chaque tour, une personne construira une signification en tirant progressivement trois cartes parmi celles proposées anonymement par les autres. Et entre chaque tirage, on pourra se questionner avec bienveillance pour décoder le sens derrière les cartes. Florencia ?
Allô ?
Bonjour. Alors, tu es artiste montréalaise. Ta pratique est à la croisée du dessin, du textile, de la performance et de l'art relationnel. Et justement, la relation à l'audience semble être une des matières de ton travail. Pour commencer le tirage, je te propose trois questions et je t'invite à répondre à celle qui t'inspire le plus.
D'accord, j'écoute.
Alors, quelqu'un découvre pour la première fois une œuvre significative dans ton travail. À quoi cette personne est-elle confrontée? Quel point commun aurais-tu identifié entre les différentes œuvres que tu produis? Ou quel est ce moment dans ta pratique où tu ressens du plaisir?
Ok, attends.
Est-ce que tu veux que je répète?
Oui, non, mais oui, s'il te plaît. Je me souviens plus.
Ça va. Quelqu'un découvre pour la première fois une œuvre significative dans ton travail. À quoi cette personne est-elle confrontée? Ou dans les différents travaux que tu as fait, est-ce que tu aurais identifié un motif, un pattern?
Ok, je peux répondre. Sinon, j'avais oublié mon idée.
Ok.
C'est un point commun ou à quoi cette personne est confrontée, c'est un peu ensemble. En fait, s'il y a une œuvre, si c'est une œuvre vidéo, une œuvre performative ou une œuvre installative de dessin, la personne qui regarde qui regarde cette chose-là va être invitée à être dans l'œuvre. En fait, l'œuvre n'est pas complète si la personne n'est pas à l'intérieur de l'œuvre. Donc, c'est participatif. En quelque part, je considère toujours la présence du regardeur comme, comme le point central, comme un moteur, en fait, pour l'œuvre, pour que l'œuvre fonctionne. Puis c'est souvent le fun. J'aime faire des choses drôles, amusantes, puis qui vont connecter les gens les uns avec les autres par le plaisir d'être ensemble puis de faire l'expérience de cet objet-là. Voilà.
Parce que j'imagine que ça challenge les normes d'être ensemble entre une œuvre et un spectateur.
Oui. Oui, puis je fais aussi des choses pas nécessairement... qui ont l'air des fois délicates, faites avec minutie, puis beaucoup d'attention. Puis à la fin, c'est pas fait pour être délicat, c'est fait pour jouer avec, pour le déconstruire, pour être manipulé, puis transformé. Ouais.
Et je suis curieux de l'évolution de ça. Qu'est-ce que tu apprends, performance après performance, de cette relation avec l'audience?
C'est l'imprévisible, jouer avec le hasard, avec l'aléatoire, pas avoir le contrôle, surtout. Puis inviter les gens à être avec moi, en fait, c'est aussi de me rendre compte que de performance en performance ou d'œuvre en œuvre, je me rends compte à chaque fois que je veux pas être toute seule dans mon œuvre. Je suis peut-être l'initiatrice d'un travail, mais j'aime collaborer, puis c'est une collaboration jusqu'au bout. C'est toujours différent, ça se répète pas. Puis je trouve qu'être en relation avec les autres, ça rend les moments plus vivants aussi.
Je propose aux joueurs des cartes de poser leur proposition. Donc les cartes roses se mettent sur la table. Et donc nous avons trois choix de cartes.
Je les lis à voix haute.
Ouais.
Donc j'ai trois cartes devant moi. Elles sont anonymes, je sais pas qui les a mis. Je vois partager, féconde et fragile. Féconde.
Tu pars sur féconde?
Féconde. J'ai l'impression d'être un petit poussin fécond. On va aller avec féconde parce que c'est bizarre. J'ai l'impression d'être un petit oiseau là, avec un œuf.
Est-ce que tu voudrais nous parler de ce que c'est être fécond?
Mais c'est surprenant pour moi là, de lire ce mot-là, je m'y attendais pas. J'entends fécond reproductible, fécond, j'entends famille aussi. Mais peut-être que ça résonne avec communauté, développant, mais ça sonne aussi comme avec ma pratique est émergente aussi. Ça fait, je sais pas, genre 7 ans là, et 8 plus que je fais de l'art. Puis l'inspiration, elle est féconde. La pratique, elle est féconde parce qu'elle continue aussi. Je pense que j'ai une pratique hybride. Pas toujours la même, tout dépendant du contexte, puis de mes envies, puis des gens qui sont autour de moi. Donc peut-être que j'ai une performativité dans l'art qui est fécond parce que c'est malléable, parce que je me promène. Fécond.
Philippe, tu as une question?
J'ai l'impression que je peux être fécondée par les gens.
C'est une suggestion peut-être d'interprétation. C'est ça exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est cette relation-là avec l'autre, cette rencontre-là finalement, qui peut devenir féconde. C'est ça. Féconde plutôt dans la rencontre.
Oui.
Je pense que c'est ça que ça me fait penser, moi, quand je vois ça avec ce que tu viens de nous dire.
Oui, c'est ça. C'est qu'à chaque croisement, il y a une nouveauté. Puis c'est la naissance d'une nouvelle idée, la naissance de nouvelles conversations, la naissance de relations, la naissance d'œuvres, de liens. Je pense que j'aime aussi cette idée-là parce que c'est le hasard. Ça joue avec le hasard. Je ne peux pas prévoir exactement qu'est-ce que ça va être. Là, il y a les cartes vertes qui se trament devant moi. J'ai des surprises qui s'en viennent. J'ai une limite féconde, un lien fécond, une fierté féconde. Limite féconde, lien fécond, fierté féconde. Lien fécond... je pense que c'est ça, on parlait de relations, de lien, créer du lien... d'être inspiré par les rencontres, tout ça, c'est un peu... Ça va dans le même sens. Je pense que j'irais peut-être avec limite parce que...
Super.
Ça me remet en... parce que ça me remet en question, je pense.
Ben ouais, c'est quoi, dans le cadre de ton donc de ta pratique, une limite est féconde.
Une limite féconde.
Ah, entre dans ton rapport avec l'audience, il y a donc une limite.
Ouais.
En quoi cette limite serait-elle féconde?
Il y a une limite parce qu'on est deux, parce qu'on est dans deux positions. Mais la limite, peut-être qu'elle est féconde parce qu'on l'aperçoit comme divisée, puis moi je l'aperçois comme ensemble, tout le temps.
Parce qu'une limite, habituellement, ça a tendance à se séparer.
Oui, c'est ça. Mais moi, je ne veux pas voir. Mais peut-être que je la vois, mais je ne veux pas qu'il y en ait. Je ne veux pas qu'il y ait cette limite-là ou peut-être révéler la limite justement en essayant de la déconstruire. Je vois des limites et des limites à mes capacités aussi sociales qui font peut-être que ça me fait dévier et trouver des nouveaux moyens, des moyens que je n'avais pas imaginés auparavant. Donc, c'est comme voir la limite comme une erreur ou un échec, les voir comme en fait une ouverture. Limite féconde, c'est des ouvertures. Voilà. Limite féconde, une ouverture.
Philippe, t'as une vision?
Ouais, ben j'ai envie de déjà tricher un petit peu peut-être, puis me demander d'inverser. Là, les gens ne voient pas ce que je suis en train de faire, mais inverser les cartes, puis me demander est-ce qu'il y a justement une limite à cette fécondité-là que tu trouves avec l'autre? Est-ce qu'il y a des moments où ça arrête, ça ne marche pas, où il y a du sable dans l'engrenage, puis là, est-ce que ça rebondit ou finalement tu te refermes? Peut-être que ça peut t'évoquer des exemples ou certaines choses qui t'est arrivées dans le passé.
Et si je peux rajouter, on parlait de limites par rapport à ton rôle en tant que personne qui offre une opportunité et le regardeur. Est-ce que, moi je vais inverser les rôles, est-ce que la limite peut être renversée complètement dans le sens que, est-ce que toi tu peux devenir le regardeur et le membre du public ou peu importe cette personne-là? Est-ce qu'il y a une limite à la non-limite?
Oui, mais ça me fait penser à un travail que j'ai fait quand j'étais en résidence, où je présentais des dessins, je faisais du dessin d'observation dans un chaos de garage. Il y avait plein de tissus partout, je finissais un bac en textile, mais j'avais pas dessiné, j'avais délaissé la pratique du dessin, puis je me suis amusée à faire du dessin très méditatif d'observation. Puis... j'ai présenté les dessins, puis en fait, ensuite, je demandais au regardeur de reconstituer les dessins sous forme sculpturale avec des tissus que j'avais ramassés. Puis, c'est moi qui... Tout le monde les regardait, en fait. Les personnes regardaient les participants en train de jouer, puis c'est ça, l'œuvre. Donc, à ce moment-là, j'avais l'impression que j'étais plus... c'est plus moi l'artiste, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir inversé les rôles, puis c'est ça, je voulais pas vraiment nécessairement être au centre de la chose, je voulais que le participant, disons, soit au cœur de la création, puis fait que j'ai l'impression d'avoir peut-être renversé les rôles.
Absolument, l'espace qui est habituellement entre, là, ou plutôt, en fait, ce qui sépare habituellement devient un espace fertile à une union, un moment partagé.
Oui.
Où les rôles sont habituels, disparaissent ou...
Ben, où chacun peut y mettre sa signature aussi, puis peut habiter l'œuvre à sa manière. Donc maintenant, j'ai les troisièmes cartes qui m'ont été proposées, désirées par une limite féconde. Déguster une limite féconde. Dépendante d'une limite féconde. Désirée par une limite féconde. J'ai l'impression que la limite féconde me désire. J'élimine. Déguster une limite féconde. Je peux en prendre plaisir à une limite féconde. Dépendante d'une limite féconde. Dépendante d'une limite féconde. Je vais prendre ça, puis je pense que c'est... c'est autant... la limite féconde, c'est autant le plaisir dans tes questions en premier. Le point commun, le plaisir que je trouve à faire le travail que je fais ou travailler avec mes inspirations, c'est que... avec l'autre, il y a une limite, mais la limite, elle est féconde, mais je suis aussi dépendante de cette chose-là parce que quand je travaille... J'ai réalisé, en fait, dans les derniers projets, que je pense que je prends de moins en moins de plaisir à travailler toute seule.
Ben, je vois ça comme presque comme un score, comme une contrainte que tu te mets dans ta pratique, en disant ok, je vais être dépendant de la fertilité de cette relation entre l'audience, comme si c'était une ligne directrice, ben, une action volontaire en fait. Dire ok, ben, c'est ça qui m'intéresse et je vais créer un rapport de dépendance pour nourrir quelque chose, je sais pas.
Oui, ça résonne. Je veux entendre.
Moi, je me demande justement, quand tu deviens dépendant de l'autre pour ta pratique, qu'est-ce que ça devient la pratique tous les jours? Parce que quelqu'un qui fait le dessin, quelqu'un qui fait la peinture, mettons qu'on nomme les grands médiums traditionnels, il peut aller à l'atelier, il peut s'asseoir, il peut travailler. Mais si tu veux avoir une pratique journalière, qu'est-ce que tu fais?
Je me cogne la tête. c'est pour ça que ça bouge, en fait. C'est pour ça que j'ai une pratique hybride, multidisciplinaire, parce que des fois, j'ai envie de voir personne, puis je dessine, mais je deviens mon propre autre, mon propre performeur. Tu sais, je documente des micro-performances, puis je laisse des traces. Donc, je documente les traces. Après, c'est dur. Je me questionne beaucoup sur avoir un atelier. Parce que c'est dehors, parce que c'est avec les autres, parce que c'est c'est le momentum, des fois, c'est difficile.
Merci de cette question-là, oui. Qui questionne la pratique de l'art relationnel. Comment est-ce qu'on pratique en dehors du moment présent?
Ouais.
Merci, Florenza.
Merci.
Tout de suite, je vous propose de goûter à un premier son de Aymeric de Tapol, Earth, suivi d'une courte page de publicité et la suite de cette émission de Atelier spécial Make Sense.
Salut tout le monde, ici François Martel. Chaque dimanche matin, si vous entrez au Quartier des Chansons, vous allez entendre de la bonne chanson francophone de toutes les époques. Je vous propose aussi bien des nouveautés que des classiques de la chanson francophone. Quartier des Chansons, dès 9h le dimanche matin, à l'antenne de CIBL 101.5.
Politiquement indépendante.
Bon retour sur les ondes d'Atelier CIBL pour cette émission Atelier spécial Make Sense. Aujourd'hui, nous écoutons trois artistes en dialogue et jouant au jeu de cartes relationnel Make Sense, à la découverte intime de leurs pratiques artistiques respectives. Autour de la table, nous avons le plaisir de recevoir Florencia Sozare, Véronica Mocler et Philippe Goulet-Letarte.
Merci.
Tu qui m'avait justement dit de faire attention à ça. Je vous rappelle brièvement les règles du jeu auquel nous jouons. À chaque tour, un invité est construit une signification en tirant progressivement trois cartes parmi celles proposées anonymement par les autres. En partant d'une intention spécifique à chaque artiste, l'idée de dériver telle une fabrique du sens à la rencontre du langage et de nos pratiques. Mon nom est Gabriel Beck, je suis l'auteur du jeu Make Sense. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions ou nous écrire sur radioatelier.ca. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, j'ai essayé de résumer ta pratique en quelques mots. Tu es artiste et donc tu identifies ta pratique comme s'inscrivant dans le champ global de la performance et de l'art conceptuel. Tu travailles en musique aussi, tu as un groupe, La Prose.
Les Proses, oui.
Les Proses. Et tu t'attaques aux vérités, aux histoires, aux narrations culturelles dominantes dans ton art. Comme je l'ai fait auparavant, je vais te poser trois questions et je t'invite à me dire laquelle t'inspire le plus.
Je t'écoute.
Pour y répondre. Alors, première question, ton rapport au spectateur. Donc, il y a une personne qui découvre pour la première fois une œuvre significative dans ton travail. À quoi cette personne est-elle confrontée? Ensuite, le pattern, le motif, est-ce que dans tes œuvres que tu as... auxquelles tu as déjà travaillé, celles que tu envisages de faire, est-ce que tu as déjà reconnu un point commun ou un motif? Ou enfin, le plaisir. Quel est le moment dans ta pratique où tu ressens du plaisir?
Ben moi, j'ai envie de rebondir sur cette notion-là de plaisir, justement, pour affirmer qu'au contraire, dans ma pratique, je recherche le non-plaisir. Et s'il y a un lien aussi entre mes différentes performances, mes différents travaux, c'est cette recherche d'une certaine douleur peut-être infligée, mais aussi d'un sérieux peut-être aussi, oui, d'une négativité. Puis ça me fait penser aussi pour une anecdote, quand on est artiste, on va à Noël dans notre famille, puis là, les gens, nos tantes nous disent « Ah, c'est tellement merveilleux, toi tu fais ce que t'aimes dans la vie. » Puis moi, toutes les fois, je me dis « C'est vrai, je fais ce que j'aime, mais je fais pas ça pour avoir du plaisir. Je fais ça justement pour aller plus loin que ce genre de réflexion-là, j'ai envie de dire.
Et qu'est-ce qui motive alors dans ta, qu'est-ce qui te motive dans ta pratique?
Allons-y dans le personnel. Ce qui me motive, c'est certainement le vide qu'on a envie de remplir, le vide qu'on a en se levant le matin, qu'on a envie de remplir, voilà, exactement, avec des actes, avec des objets, avec des discours, avec des mots, avec des actions, ouais. Donc, c'est le négatif qui nourrit la pratique.
Est-ce que tu identifies ce qui est confortable pour toi et ensuite tu vas à contre-courant pour aller dans cette direction?
Je fais ça des fois, clairement, ouais. Je fais ça des fois, me mettre dans le trouble, identifier. Ouais. Je me souviens, par exemple, au bac, à un moment donné, j'avais réalisé que je n'aimais pas telle couleur, telle couleur. J'ai pris telle couleur, puis j'ai fait le tableau avec. Puis justement, ça fait peur. Ça réveille quelque chose, même si c'est négatif. Ben, j'y vais, je me lance, puis j'essaie de me nourrir avec ça.
J'ai un mot qui me vient en tête, là, confortable. Je me demande si, quelque part dans cette démarche, tu cherches un peu à challenger cette notion de confort, autant chez toi que chez le spectateur, en fait. Questionner le rapport au confort, est-ce que je me trompe ou est-ce que... Ça...
Ben, c'est pas quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, je te dirais. C'est plus quelque chose qui vient de se présenter devant moi dans ma pratique récemment, mettons, dans la dernière année. Mais oui, je dirais oui, absolument. Puis s'il y a quelque chose, si je peux faire sentir le spectateur inconfortable devant une œuvre, un travail que j'ai fait, ben moi, je trouve que j'ai réussi, effectivement. Puis moi, le confort, je le fuis, effectivement.
Dans ta pratique aussi?
Oui, absolument, parce que le confort, c'est le roi victorieux qui s'assoit sur son trône, qui fait le buffet pour le reste de ses jours, qui engraisse. Puis moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de me donner du trouble, hein, d'avoir mal, de fuir cet état de confort-là. Absolument, oui. Il faut que ça fasse mal.
Alors, on t'a fait par rapport à ce que tu as dit. Donc, on a choisi des cartes pour toi et donc je les révèle sous tes yeux, si tu veux nous les lire.
Alors, je lis. Dévoué, autoritaire, intrusif. Dévoué, autoritaire, intrusif. C'est vrai que dans l'esprit que de ce que je viens de dire, justement, je vais choisir intrusif parce que ça me surprend. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être intrusif?
Il y aurait un lien, peut-être, en cette situation-là de confort. Quelqu'un qui est intrusif, il vient nous troubler. Il vient, après ça, je me demande, est-ce que moi, je suis intrusif avec les autres parce que je leur propose des concepts difficiles, parce que je leur parle de choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre? Peut-être, mais c'est... est-ce que c'est mon intention? Peut-être aussi, franchement. Peut-être.
Et c'est quoi le rôle d'un intrus?
C'est ça, c'est une bonne question. Pour être intrus, il faut qu'il y ait un système, hein? Il faut qu'il y ait des règles. Et il faut que l'intrus arrive dans ce système-là et pas à sa place. Donc, il ne fonctionne pas. Trouble.
Ouais, en fait, je me dis aussi que l'intrus doit déjà arriver dans ce système. Donc, il a quelque chose en lui qui fait qu'il a cette capacité de rentrer et de percer les lignes un peu, quoi.
Oui, absolument. Il y a une notion d'extériorité en ce sens-là où pour être un intrus, il faut que tu arrives d'en dehors de quelque chose, hein? Donc, forcément. Donc, il y a déjà deux paramètres. Il y a quelque chose. Puis,
D'existant?
Ouais.
Et c'est quoi les... Du coup, c'est, une fois que c'est à l'intérieur, ça me fait penser un peu comme un virus, hein, je sais pas.
Oui, il y a une violence, on dirait, à ce mot-là. On a envie d'y trouver une violence. Mais est-ce qu'une intrusion, ça doit toujours être violent?
Est-ce qu'une intrusion, ça doit toujours être violent? Est-ce qu'elle peut être invisible, cette intrusion aussi? Est-ce que ça peut être... quelle est la nature de...
Elle pourrait peut-être être rafraîchissante.
Une intrusion rafraîchissante.
Rafraîchissante, ça c'est un concept trop léger pour moi, ça.
J'ai l'impression qu'il faut avoir une sacrée conscience de...
C'est trop positif.
Ouais, c'est ça. Rafraîchissante, c'est...
Rafraîchissant dans l'inventivité ou...
Ouais, non. Ouais.
C'est rafraîchissant parce que c'est nouveau, c'est un regard qu'on n'avait pas... On n'avait pas perçu auparavant.
C'est vrai, ouais. C'est déroutant.
Ouais,
absolument.
Donc, comment réagir à une intrusion? Comment réagir dans ton travail? Je me mets à la place d'un spectateur.
Ouais.
Comment est-ce que tu m'invites à réagir avec toi, ton travail qui vient?
J'ai eu des réactions violentes à mon travail, même à des choses très inoffensives, comme étamper le mot éthique sur des feuilles de papier pendant 6-8 heures. Les gens se pointent, puis ils me disent « Ah, oh, tu gaspilles du papier », ou ils me disent « c'est n'importe quoi », ou ils me disent justement que ce que je fais, c'est pas éthique parce que je gaspille du papier, ce qui est très premier niveau. Mais en même temps, pour moi, ça... Puis j'en ai parlé avec des amis, avec des gens qui étudient la morale, ce genre de choses-là. Mais c'est surtout que quand tu leur présentes un concept comme l'éthique, par exemple, il y a peut-être une forme d'intrusion parce que eux ça reflète leur propre perception de ce que ça devrait être, l'éthique. Puis ça les met dans l'erreur parce qu'on est tous en deçà de ce qu'on voudrait être, forcément. Puis moi, c'est ça qui me retourne. C'est ça qui me revient. C'est cette déception-là qu'eux ont en face d'eux-mêmes qui me revient, puis il m'envoie cette négativité-là. Puis je l'ai reçu, je l'ai reçu beaucoup, je l'ai reçu en masse, puis ça m'a fait bifurquer aussi.
Comment tu gères... Comment tu gères...
Je le gère pas. Même une fois, je me suis fait voler mes boîtes de papier, des écologistes enragés qui ont volé mes boîtes de papier. Je gère pas, je leur cours après, je leur dirais « Donne-moi mes boîtes. »
Mon matériel.
Il faut réagir, puis ça rejoint un peu ce que Florencia fait aussi quand tu fais de la performance, t'es devant un public, t'as pas le choix. Puis je pense qu'il faut être ouvert à ça. Puis j'ai bifurqué, puis le troisième poème politique est sous des thèmes complètement différents.
Est-ce que tu aurais appris de ces intrusions, des réactions à ces intrusions dans l'évolution de ton travail?
Absolument, absolument. J'ai appris sur moi, sur ce que je voulais faire aussi, parce que une réaction amène une contre-réaction. Puis là, toi, tu te dis, bon, ben moi, qu'est-ce que je fais avec cette négativité-là? Qu'est-ce que je fais avec cette réaction-là à propos de quelque chose que finalement, moi, je trouvais inoffensif? Moi, je me disais, moi, je veux que les gens réfléchissent, c'est tout, pas se sentent attaqués. Mais les gens se sont sentis attaqués.
J'ai l'impression que tout à l'heure, tu parlais de confort, puis que tu vas à l'encontre du confort ou des choses qui peuvent être satisfaisantes ou plaisantes. Puis là, j'ai l'impression que ces réactions-là de ces gens-là qui réagissent mal à tes œuvres révèlent comme ta porte où est-ce que tu voulais aller. Hein. Exactement.
Ben, puis je voulais
et le désir de toujours être confortable, ne pas être confronté ou être correct pour être accepté, je sais pas.
Il faut passer à la suite, je pense. Hein.
Le temps court. Mais là, on a donc trois propositions nouvelles. Est-ce que tu veux nous les partager?
Donc, distance intrusive, soin intrusif et doute intrusif. Distance intrusive, soin intrusif et doute intrusif.
Je vais prendre doute. Je vais prendre doute justement parce que ça continue sur ce qu'on disait. Moi, c'est suite à mon intrusion peut-être au public, c'est le doute qui m'est revenu. Puis c'est avec ça qu'il a fallu que j'essaie de continuer à pratiquer puis à faire ces poèmes politiques-là.
Le doute a été une réponse intérieure à toi par rapport à ça, c'est ça, si je comprends bien?
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le doute, c'est ce que j'ai reçu.
Tu as douté de ta pratique à ce moment-là?
Beaucoup, ben, absolument, absolument. Puis il faut douter. Puis c'est ça l'inconfort aussi, c'est toujours douter. Il faut pas se complaire tout court. Donc,
qu'est-ce que tu cherchais dans cette performance, par exemple, où tu écrivais...
Ben, tu l'as bien dit, je m'attaquais dans une jeune innocence aux narrations, aux récits. C'est une meilleure traduction, je trouve, de narrative.
Écologie.
Oui, moi, c'était surtout... c'est surtout le récit colonial qui me touche particulièrement. L'écologie, où on peut en parler, mais quand c'est détaché du social, moi je décroche complètement. Donc, ouais, c'est ça. Je m'attaquais au récit. Puis finalement, avec ces réponses-là, je me suis demandé si ça fonctionnait.
Je regarde les cartes doute intrusif. Du coup, je vois donc le doute, l'état du doute, le questionnement, l'indécision. Être intrusif, c'est-à-dire que est-ce que c'est positif ça? Est-ce que c'est une matière dans ton travail ça? Juste un doute intrusif ça? Est-ce que ça pose des questions? Est-ce que c'est positif?
C'est positif, c'est une bonne question. C'est négatif.
C'est négatif.
Mais c'est créateur.
Alors en quoi c'est créateur? Alors ouais, je me demande parce que c'est vrai que
c'est ton moteur. Est-ce que ça ressemble à ça ton moteur créatif?
Ça ressemble à ça mon moteur créatif.
Un doute intrusif.
Franchement, malaise.
C'est comme le truc auquel il faudrait réfléchir. C'est peut-être un aspect du jeu qui est intéressant aussi. C'est que là, finalement, on a abouti à ça, puis ça fonctionne avec la conversation qu'on a eue. Donc, dans ce sens-là, c'est assez troublant. ce serait à moi d'y réfléchir, mais... c'est ça. Si y a une négativité là, qui est créatrice...
Et en quoi le doute pourrait être donc intrus, donc qui vient malgré soi, c'est vrai que ça résonne avec la certitude, le confort, ce dont on a déjà parlé. En quoi le fait de douter peut ouvrir à des nouveaux chemins?
Ben c'est ça, tu le dis, ça ouvre à des nouveaux chemins. Ça nous permet justement comme artistes de pas de pas stagner. De ne pas avoir un style ou rechercher un style. Quand on est des artistes comme nous, on est des artistes de la performance, on est des jeunes artistes quand même, mais on n'est pas des artistes qui s'identifient dans un marché, dans le marché classique. Dans ce sens-là, la notion de style, de continuité, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on recherche. Au contraire, je pense qu'on est le genre d'artistes qui se définissent en opposition à ça. Donc, en ce sens-là, le doute, c'est clé, c'est clé. Elle doit être à la base de la recherche artistique, je pense. puis il doit être intrusif, mais c'est toi, dans ce sens-là, rendu là, qui doit
t'infliger
ouais, l'intrusion, peut-être.
Ou créer les conditions pour que ça vienne. Et j'ai l'impression que quand tu provoques, il y a quelque chose qui te revient, quoi, comme une... qui te...
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose de sensationnel dans l'intrusion? Donc, quand le public te revient avec... te fait douter, te lance des choses auxquelles que tu n'avais pas prévues. Est-ce que c'est l'aspect sensationnel, l'aspect, oui, ça vient te choquer, ça vient te faire douter, mais aussi, je veux pas, ça l'éveille une émotion qui est très forte. Donc, c'est peut-être juste à ce niveau-là, pourquoi on aime le doute, c'est que c'est fort.
C'est vrai.
Est-ce que le doute est satisfaisant? Comment le doute, comment tu te satisfais? Non.
Il est peut-être négatif, mais au moins on le sent. Ouais.
On sent quelque chose, en tout cas. Si on revient au vide du départ, là, on sent quelque chose. Là, le vide est parti, là, on fonctionne. Le petit hamster, il roule.
Ouais, ouais.
Ça travaille fort. Mais ensuite, est-ce que c'est satisfaisant? C'est pas satisfaisant. Ça doit pas être satisfaisant.
C'est épuisant, là?
C'est épuisant, mais ouais, c'est ça. Mais satisfaisant, là, il faut pas que ça soit satisfaisant.
Ouais, ça
satisfaisant, pose des questions. On arrête encore. S'assoir, si on est satisfait.
On n'est pas sorti du
bois. Je vous fatigue.
On s'assoit.
Carburé au doute.
Je me fatigue moi-même. Alors, prochaine carte, carte bleue. Fragilisé par un doute intrusif. Le premier doute intrusif. Jaloux, jalouse d'un doute intrusif. Je vais répéter. Fragilisé par un doute intrusif, le premier doute intrusif est jaloux d'un doute intrusif. Je trouve que chacune des options évoque quelque chose, mais le premier doute intrusif, ça me ramène un souvenir fort. C'est peut-être ça que je vais choisir.
Est-ce que tu veux raconter?
Ouais, ben en une phrase, c'est peut-être la première fois que j'ai rencontré l'art conceptuel. J'ai détesté ça. Ça m'a troublé. Je comprenais pas. J'ai haï ça. J'étais jeune. J'ai détesté ça, voilà. Et maintenant, j'en fais.
Merci beaucoup. Pour la suite, je propose d'écouter Frozen d'Amérique de Tapol.
Make sense, la fabrique du sens, ensemble.
Salut Véronica.
Allô Gab.
Alors tu situes ta pratique dans le champ de l'art conceptuel et social, où la scène semble être un lieu d'émancipation qui peut appartenir à tout le monde. Alors je te propose de jouer aux mêmes règles du jeu. Je vais te poser trois questions et je t'invite à en choisir une et à y répondre. Dans ta pratique, est-ce qu'il y aurait un moment où, est-ce que tu pourrais nous nommer un moment où tu te sens en harmonie avec ta pratique? la relation spectateur. La même question, il y a une personne qui découvre pour la première fois une œuvre dans ton travail. À quoi cette personne est-elle confrontée? Et enfin, le plaisir. Quel est ce moment dans ta pratique où tu ressens du plaisir?
Je vais y aller avec la deuxième, mais ça m'aiderait si tu la répétais rapidement.
Mais oui.
Je sais que c'est elle que je veux, mais je veux la réentendre.
On découvre ton travail pour la première fois. Qu'est-ce que cette personne voit et à quoi est-ce qu'elle est confrontée de l'intérieur?
Cette personne est confrontée à la réalité d'un inconnu. Elle est... je pense que le mot « confronté » est bon, parce que quand on fait face à quelque chose qu'on ne connaît pas, évidemment, on sent ébranlé un peu, on se sent confronté. Mais je confronte avec vraiment c'est la réalité d'un inconnu, la personnalité d'un inconnu, le vécu d'un inconnu, les causes, les désirs d'un inconnu. Donc, et quand je dis un inconnu, c'est une vraie personne humaine devant soi.
D'accord. Il y a trois cartes qui ont été proposées.
Oui. Je les tourne, les cartes roses devant moi. La première carte est sous-jacent, sous-jacente. La deuxième, intérieure. La troisième, réelle. Donc, sous-jacent, intérieur ou réel. Ben là, je vais y aller avec réel.
Okay. Merci. Est-ce que tu
veux... On est dans le vrai. Okay.
Ah. Qu'est-ce que c'est pour toi, réel? Être réel.
Être réel. Au niveau de ma pratique, parce que be real, ça peut être plein de choses, là. Mais au niveau de ma pratique, le réel, c'est littéralement ma matière. C'est ma peinture, c'est mon crayon, c'est mon langage. J'amène des gens à se raconter, j'amène des gens à s'exprimer dans des contextes où est-ce qu'il y a une audience, un public qui est là pour les entendre. Donc, on est dans le vrai, on est dans le réel, on n'est pas dans le planifié, on n'est pas dans le scripté, on est vraiment dans une interaction qui se passe dans le cru, dans le vrai.
Et comment tu fais pour gérer toutes les contraintes ou que peut apporter un dispositif? Par exemple, tu joues dans un théâtre... être dans un théâtre peut être face à une audience, peut changer, perturber les comportements. Comment est-ce que, où le réel se situe dans un rapport
Je crois qu'il se situe en déconstruisant justement les conventions. Si je suis dans un théâtre, on s'attend à s'asseoir dans un noir, à faire face à une scène allumée, par exemple. Donc, en déconstruisant chaque convention, chaque protocole, on est laissé avec quelque chose qui est raw, quelque chose qui est pas liché, qui est pas ficelé. On est laissé avec quelque chose de réel. Donc, en déconstruisant, dans le fond, le lieu dans lequel j'amène des gens à se raconter, tout ce qui reste, c'est la personne qui est là devant toi. J'ai des cartes vertes, un beau vermante. Donc, la première carte, c'est temps réel, autorité réelle, mensonge réel. Vous êtes pas fin, OK? je vais y aller avec temps réel et je vous explique pourquoi. Une chose, je comprends pas toujours les contextes de rencontres que je crée dans ma pratique, mais une des certitudes que j'ai, c'est que le temps qu'un public, qu'un membre, qu'un regardeur passe, le temps que cette personne-là passe durant une de mes œuvres, il est réel, dans le sens que il y a eu une connexion humaine très simple. Il y a eu cette personne-là a fait face, elle était face à face avec un inconnu. Donc ce temps-là, il est très réel. Puis c'est peut-être ma seule fierté dans ma pratique, c'est que je suis capable d'offrir une opportunité de rencontre qui n'a pas d'éléments de surface. Là, on fait vraiment affaire avec quelqu'un qui a ses propres problèmes, ses propres idées, ses propres qualités. Donc, on est vraiment dans le réel.
Durant ces moments performatifs,
oui.
On serait plus dans le réel que dans le réel?
Ouais, absolument.
Pourquoi?
Parce qu'on n'est pas dans un autobus sur nos phones. On n'est pas à la radio à se faire face, à être conscient que plein de gens nous écoutent. on est vraiment... oui, on est dans un... On s'entend tous qu'on est dans un lieu, un contexte artistique, mais j'essaie tellement d'enlever toutes les attentes qu'on a à ce niveau-là, que de l'art, ça devrait être ci, que de l'art, ça devrait être ça, que je veux pas. J'ose espérer que le fait que tu es face à face avec quelqu'un, c'est pas mal la seule chose qui te reste.
Comment on fait pour avoir un rapport normal avec une audience? Qui a acheté un ticket pour voir, pour te voir, et tout ce qu'il y a derrière le dispositif?
Ben c'est ça, le public achète un billet, pas pour me voir moi, mais bien les gens avec qui je travaille, que je mets en scène, même si la scène, elle n'existe pas. Comment avoir cette relation-là? À quoi ils peuvent s'attendre? Pardon, c'était quoi ta question?
Bah, par exemple, j'essaie juste d'énumérer un peu les différents paramètres du dispositif, par exemple du théâtre. On achète son billet, donc à partir du moment... Et je veux dire, dans les relations habituelles, on ne les achète pas. Donc c'est pour ça que je me demande, comme ça, parmi d'autres, l'achat du billet. Je sais que je viens, j'achète mon billet. Qu'est-ce que ça amène dans la réalité de cette relation avec... l'audience, peut-être, est-ce qu'elle attend des choses? Est-ce qu'elle...
Oui, je pense que même si... Moi, mes œuvres, elles sont gratuites. On y assiste gratuitement, mais même en y assistant gratuitement, tout le monde rentre avec des attentes. Puis ces attentes-là, je veux dire, si on rentre dans un théâtre, on en parlait tantôt, on s'attend à des conventions. Puis elles font juste... les gens sont peut-être... pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas eu de la fumée puis de la pyrotechnie. mais... Puis je m'en fous, tu sais. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est comme la rencontre authentique entre une personne du public et la personne que je mets en scène.
Cool. Philippe, t'as une question?
Ouais, ben je me demande, je trouve ça peut-être fécond de revenir sur l'idée de... comme le notait Gabriel, en disant que tu présentes la réalité. Alors, comment on crée un dispositif qui fait la réalité plus réelle que la réalité?
Que la réalité.
Ouais. Parce que l'autobus, le cellulaire dans l'autobus, c'est absolument la réalité.
C'est absolument la réalité, mais c'est pas nécessairement la réalité. Moi, je m'intéresse au pouvoir d'une interaction entre deux personnes. Donc, on n'est pas dans le face-à-face. Quand on est sur nos fonds dans un bus. On est peut-être face à face si on se fait face dans le bus, mais on se regarde pas nécessairement dans les yeux.
Pour finir, okay.
Non, mais j'ai une curiosité. Comment est-ce que c'est une rencontre réelle s'il y a performeur et il y a public?
Bien, c'est des limites que j'essaye d'amoindrir, si je peux le dire comme ça. Et souvent, ben là, je rentre un peu, c'est un peu joint à ta pratique, à toi. Je rentre dans la participation du public, je rentre dans, je renverse les rôles, je rentre dans, je vire la caméra vers la personne qui était venue voir en premier. Donc, c'est vraiment dans l'espèce de renversement des attentes. Donc, je me lance sur les dernières cartes. Donc, troublé par un temps réel, dans la chair d'un temps réel, toute proche d'un temps réel. Je vais y aller par troublé par un temps réel. Il y avait aussi dans la chair d'un temps réel et puis... tout proche d'un temps réel. Donc, j'y vais avec troublé par un temps réel parce que, bien, pour conclure ma partie et puis faire un clin d'œil à ce qu'on a discuté avec Philippe, je pense que le but en art, c'est de pas s'asseoir sur ce qu'on connaît déjà. Et dans ma pratique, j'essaie de pas m'asseoir sur ce que j'ai compris déjà. Donc, puis se lancer un peu dans des interactions avec d'autres gens que tu ne connais pas, c'est sûr qu'il y a des choses inattendues qui vont ressurgir, mais aussi te troubler, parce que ce qu'on connaît pas, ça nous trouble, puis je trouve que c'est ça qui est riche.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci encore, Florencia Sozare, Philippe Goulet-Letarte et Véronica Maucler, pour votre présence et d'avoir eu le courage de vous révéler en direct sur les ondes ce soir. par un étonnant hasard, si vous voulez découvrir la pratique de Florencia Sosaret et de Philippe Goulet-Letard, vous serez tous les deux demain soir au Centre Scoll, où vous performerez distinctivement dans le cadre de la publication de la RIPA. Florencia avec Laurence Baudouin-Morin et Philippe Goulet-Letard, tu performeras avec Clotilde.
Effectivement, qui est une marionnette.
Véronica, Véronica, tu présentes samedi dimanche soir l'Adresse, une performance ethno-documentaire en collaboration avec Sophia Blondin. Ça se passe à Montréal, au Centre d'éducation interculturelle et internationale, rue Paré. Ce qui met fin à cette émission d'atelier. Je voudrais chaleureusement remercier Benjamin Gialard pour m'avoir fait confiance, Geshan à Armand Harris pour la mise en onde et Marion Mawashigiri pour l'aide à la réalisation. C'était Gabriel Beck, auteur de Make Sense. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à propos du jeu, je vous invite à consulter le site internet makesense.games. Si vous voulez en savoir plus ou juste réécouter l'émission, je vous invite à visiter notre site internet à radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. Si vous avez aimé, on vous invite à nous partager vos retours. On adore recevoir de vos nouvelles. Et pour conclure cette émission, avec cette magnifique balade climatique d'Emeric de Tapol sur l'album Winter Dance, Lumière d'Hôtel. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir fait du sens avec nous.